en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre invitation. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel et vous tous. Je suis dans votre Assemblée avec crainte et tremblement, mais aussi sous le regard d'un cardinal. Sa présence ne me surprend pas ici, mais voilà, je sens son regard sévère peser sur moi. Le Moyen-Orient, il suffit d'abord d'y porter un regard de géographe. Je vois qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur l'histoire. J'espère que la géographie ne va pas disparaître trop de l'enseignement dans nos collèges. Si l'on regarde le Moyen-Orient, on voit bien que cette région est assez unique puisqu'elle a des liens étroits avec l'Afrique. Pour les chrétiens orientaux, l'Égypte, l'Éthiopie sont bien en Afrique. Que ce Moyen-Orient par lui-même est en Asie, mais qu'il est également ouvert sur l'Europe à travers l'unité de la Méditerranée. Bref, si j'étais Dieu, si j'avais l'idée étrange de vouloir m'incarner quelque part, c'est sans doute là que je le ferais, puisque de là, on peut vraiment diffuser sur 3 continents différents. Et on retrouve évidemment l'origine de notre civilisation à travers l'Égypte et la Mésopotamie. Historiquement, le premier grand personnage de la région n'est pas issu du Moyen-Orient, mais bien de Grèce, Alexandre le Grand, sans doute assez mauvais élève d'Aristote. Après la conquête de la Grèce, fera la conquête de l'Asie mineure, de l'Égypte. Il se fera reconnaître comme pharaon, c'est l'avantage des polythéismes. On peut ainsi glaner quelques dieux ici ou là, selon le hasard des conquêtes. Après avoir été reconnu comme pharaon, il va se retourner en faisant la conquête de la Perse, ce qui n'est tout de même pas rien. Il va aller jusqu'à l'Indus, où ses soldats vont commencer à récriminer, désirant rentrer chez eux. On ne fait pas comme ça des récriminations à Alexandre. Il va faire assassiner les premiers, mais il va bien écouter les suivants. Il va faire demi-tour et il va mourir à Babylone à 33 ans. Si j'évoque cette figure, c'est que Alexandre le Grand va commencer finalement une tradition de gens venus du Nord, faisant la conquête du Sud, les armes à la main, une conquête tout de même assez violente, et une fois la conquête faite, va vouloir être dans l'amitié des peuples conquis. Les noces de Suse ont encore marqué les imaginations, puisque à travers elles, Alexandre voulait marier des milliers de soldats grecs avec des milliers de jeunes filles de Perse pour essayer de créer un monde nouveau, un peuple nouveau issu de ses conquêtes. C'est une tradition qu'il va ouvrir. Il y aura beaucoup de peuples du Nord qui vont arriver vers le sud-est de la Méditerranée, les Grecs donc, puis bientôt les Romains, les Byzantins, les Croisés, les Mongols. Je ne suis pas certain que les Mongols aient voulu faire ami, mais enfin, ils sont tout de même venus. Les Turcs et la puissance dominante et occupante dans cette région arabo-musulmane a bien été les Turcs pendant des siècles, jusqu'à la Première Guerre mondiale, mais encore les Européens et plus proche de nous, les Américains. Lorsque les États-Unis ont envahi avec la coalition qu'ils avaient formée l'Irak, le président des États-Unis a dit « Nous sommes les nouveaux croisés ». À cause de cette expression, des centaines de chrétiens ont été assassinés, considérés comme les alliés des Américains, puisqu'ils étaient chrétiens, donc les alliés des croisés. Voilà une tradition donc ouverte par Alexandre le Grand. Bien sûr, je suis là pour parler des chrétiens après la Pentecôte, qui sont obligés de se disperser rapidement depuis Jérusalem, à la fois pour les besoins de la mission et pour la crainte des persécutions. De Jérusalem, il n'y a pas énormément de directions possibles. On va à Damas, où le futur saint Paul va pour essayer d'enchaîner les chrétiens, de les ramener à Jérusalem pour qu'on les juge. De Damas, on peut aller à Antioche, cette grande ville chrétienne qui sera un centre culturel extrêmement important dans le domaine de la théologie, aussi de la philosophie, un centre d'études aristotéliciennes qui sera bien souvent le symétrique d'Alexandrie. De Damas, on peut également aller à Babylone, puisque les premiers chemins de l'évangélisation vont vers les communautés juives. Et à Babylone, il y a une communauté juive importante, puisque le peuple d'Israël y a été déporté, en est revenu à Jérusalem, mais tous ne sont pas rentrés. Il y a donc des juifs à Babylone. D'ailleurs, il y aura des juifs en Irak jusqu'en 1948. Et cheminant dans les régions du nord de l'Irak, je retrouve encore d'anciennes synagogues, très anciennes synagogues, que je souhaiterais d'ailleurs essayer de restaurer. Mais on peut aller de l'autre côté, vers Alexandrie, cette grande ville donc fondée par Alexandre. Il faut dire qu'il en a fondé plusieurs dizaines qui s'appellent toutes Alexandrie, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mais à Alexandrie, en Égypte, déjà, la Bible hébraïque avait été traduite 300 ans avant Jésus-Christ en grec. C'est la traduction des Septante. Et évidemment, cela a été fait aux grandes dames des puristes de Jérusalem, car dès qu'on fait une traduction, certains crient à la trahison. D'Alexandrie, nous pouvons aller jusqu'à Cyrène, grande ville romaine avec une grande communauté juive. Simon de Cyrène était sans doute venu de là, faisant son pèlerinage à Jérusalem et réquisitionné par les soldats romains pour porter la croix du Christ. Bref, voici qu'une chrétienté se déploie depuis la Pentecôte, elle s'organise, elle se donne les moyens de la mission, tandis que nous autres Gaulois étions encore avec nos druides dans les arbres à cueillir je ne sais quoi. Cela veut dire que ces chrétientés ne sont pas là parce qu'il y a eu des missionnaires européens. C'est pour cela que nous les appelons les chrétiens d'Orient. Ce sont en quelque sorte non seulement nos frères, mais bien souvent nos pères. Tandis que les chrétientés d'Extrême-Orient, en Corée, au Vietnam, au Japon, en Chine, dans bien d'autres pays, existent parce qu'il y a eu des missionnaires européens d'Europe occidentale qui sont venus y implanter le christianisme. Et donc l'Église latine d'Occident engendre l'Église latine. C'est pour cela qu'on parle d'Amérique latine ou on parle de l'Église latine pour l'Afrique ou l'Extrême-Orient. Ici, nous sommes devant des chrétientés qui ne doivent pas leur existence à l'influence de l'Église latine et qui sont donc parfois des chrétientés qui ont échappé, ce serait méchant, mais qui se sont développées en dehors de la culture gréco-latine et qui ont donc gardé des éléments de culture sémitique extrêmement anciens, de culture araméenne et sans doute très proches de ce qu'ont été les liturgies primitives immédiatement après la première génération apostolique. Parler des chrétiens d'Orient, c'est donc aussi parler de cette partie orientale de l'Empire romain. Donc vous voyez que nous sommes devant un concept à la fois géographique et historique, mais également théologique. Ce sont des chrétientés qui se sont séparées de ce qu'on appelle l'Église indivise, qui est jusqu'au XIe siècle formée et par Rome et par Constantinople. C'est le concile d'Éphèse en 431 qui a vu d'abord la séparation avec l'Église assyro-chaldéenne, c'est-à-dire l'Église de Perse, qui existe encore aujourd'hui, notamment un petit peu en Iran, mais surtout en Irak. Et ils sont vivants, ils sont dynamiques. Cette église de Perse, donc, tandis que l'Empire de Perse était en conflit avec l'Empire de Byzance, va se déployer vers la Chine. Ce sont les routes commerciales que la Perse entretient avec la Chine, soit les routes terrestres qui contournent l'Himalaya par les hauts cols et qui retombent sur la Chine. Et me promenant sur ces routes, j'ai constaté que les petites mosquées sur la route pour les voyageurs étaient en fait des anciennes églises chaldéennes qui gardent la trace de cette culture. Mais elle n'est purement archéologique. En revanche, par les routes maritimes, on quitte la Perse pour arriver vers l'Inde, vers le sud-ouest de l'Inde, l'état du Kerala, où là, deux communautés chrétiennes de culture syro-orientale vont être implantées, l'église syro-malabar et l'église syro-malankar. Il y a donc dans ces deux églises une branche catholique, chacune a à sa tête un cardinal, et ces deux cardinaux nous feront l'amitié et l'honneur de venir visiter la France dans quelques jours. Après le concile d'Éphèse en 431, c'est le concile de Chalcédoine en 451 qui a été l'occasion d'un certain nombre de divisions. l'Église d'Arménie, le royaume d'Arménie, le premier royaume converti entièrement au christianisme, le roi, les princes, le peuple, je ne sais pas si on a tellement demandé son avis au peuple, mais peut-être, après tout, je ne sais pas. Bref, la fille aînée de l'Église, n'en déplaise aux Gaulois que nous pouvons être, c'est l'Arménie. Voilà un royaume donc totalement chrétien, mais aussi se sépare de l'Église indivise les Coptes, les Coptes et les Éthiopiens. Très vite, l'Église copte a eu la main sur l'Église éthiopienne. Et puis également l'Église syriaque, qui est l'Église qui était présente dans la grande Syrie de l'époque, qui recouvre notre Syrie d'aujourd'hui, mais également la Jordanie, la Palestine, le Liban. Voici donc ces églises orientales séparées de ce que j'appelle l'Église indivise, c'est-à-dire jusqu'au XIe siècle, l'Église en communion entre Rome et Constantinople. Ces deux sièges vont se séparer, comme vous le savez, en 1054, et donc il y aura les Grecs et les Latins de l'autre côté. Il y aura également une église qui restera toujours unie au siège de Rome, ce sera l'église maronite, issue des monastères dans les montagnes entre le Liban et la Syrie d'aujourd'hui. Au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, cette fois-ci sous le coup d'influents de missionnaires européens, ces églises, lorsqu'elles ont rompu avec Rome, vont, pour une partie d'elles-mêmes et en proportion variable selon les cas, retrouver la communion avec Rome. Les deux conciles d'Éphèse et de Chalcédoine, dont il est vrai que les orientaux ont une mémoire assez floue, parfois il faut qu'on leur explique pourquoi ils ont voulu se séparer de nous, posaient la question christologique, c'est-à-dire de savoir dans le Christ quels sont les rapports entre Dieu et l'homme. Vous voyez combien c'est, pour des croyants, une vraie question. Certains vont aller dans le sens d'une grande séparation. Dieu est au ciel, l'homme est sur terre, il ne peut y avoir de communication. D'autres vont aller dans une sorte de mélange humano-divin. La formule retenue par ces deux conciles, ce sera le Christ, une personne en deux natures. La nature divine n'altère pas la nature humaine, et inversement, la nature humaine n'altère pas la nature divine. Cela peut sembler, certes, c'est le cas de le dire, à des querelles byzantines, mais en réalité, c'est quand même un problème très profond dans toute religion, de savoir comment comprendre les rapports entre Dieu et l'homme. Et lorsque l'islam surgira, ce sera aussi une vision de cette question-là. Y a-t-il communication possible entre Dieu et l'homme ? Y a-t-il cohabitation possible entre Dieu et l'homme dans une même personne ? La question est évidemment immense. Lorsque l'islam est arrivé, il y a eu évidemment une conquête par la force, mais en même temps, de la part de ces populations du sud et de l'est de la Méditerranée, qui étaient des populations sémitiques, le sentiment que ces Arabes qui venaient étaient finalement plus proches que l'empereur grec de Constantinople, qui était tout de même assez lointain, qui écrasait les populations sémitiques de levée pour l'armée et les conflits de cet empereur de Constantinople contre les tribus qui venaient d'Asie centrale, mais aussi contre l'ennemi héréditaire qui était la Perse, et ma foi, qui écrasait aussi les populations d'impôts. Quand on fait de l'histoire, il faudrait faire davantage d'histoire fiscale, parfois cela explique bien des choses. Voilà. Donc finalement, les chrétiens ont vu des cousins, des gens qui savaient ce qu'était le désert, ce qu'était un chameau, ce qu'était un palmier, finalement des gens qui savent qu'on se déchausse quand on entre dans un lieu sacré, car avant d'être une habitude musulmane, c'est une habitude sémitique. Il y a encore peu de temps, les chrétiens se déchaussaient avant de rentrer dans une église. Donc cette cohabitation a connu des phases difficiles de conflits, de persécutions, mais parfois aussi des phases de cohabitation, des phases de collaboration. Lorsque les califes omeyyades se sont installés à Damas, ce sont souvent les ministres chrétiens qui ont aidé à l'administration pour deux raisons. D'abord parce qu'il est impensable pour un ministre chrétien de prendre la place du calife, et comme vous le savez, tout danger pour le calife, c'est de savoir qui veut être calife à la place du calife, mais aussi parce que ces chrétiens avaient une meilleure connaissance des besoins de l'administration d'un immense empire. Il y a eu aussi des périodes de franche persécution, plus généralement des périodes de discrimination. Parfois, les chrétiens étaient obligés à une tenue vestimentaire particulière, avec l'interdiction de monter à cheval, l'interdiction de porter les armes, l'obligation de payer des impôts, l'interdiction d'accès à un certain nombre de fonctions administratives ou politiques. Nous sommes à présent devant une situation évidemment tout à fait particulière. Il y aurait beaucoup à dire sur cette histoire, mais le temps qui m'est imparti m'oblige à aller plus vite à des questions plus contemporaines. Nous voyons donc ce qu'on a appelé le printemps arabe. Je me permets de rappeler que ce printemps arabe a commencé d'abord, il y a eu un synode des évêques du Moyen-Orient à Rome, qui a été une rencontre de communion. Les évêques orientaux se méfiaient un petit peu de ce que la curie romaine allait les manipuler. Puis finalement, ils se sont sentis respectés. Il y a eu un très beau texte post-synodal, comme nous l'appelons, par le pape Benoît XVI. C'est le dernier grand texte de Benoît XVI qu'il a tenu à remettre de la main à la main en Orient aux évêques orientaux. C'était donc aussi le dernier grand voyage du pape Benoît XVI au Liban. Très vite après ce Moyen-Orient, il y a eu deux faits de violence. L'attentat horrible à la cathédrale syriaque de Bagdad, en pleine messe, où deux jeunes prêtres de moins de 30 ans ont été assassinés. Le curé a failli être assassiné. On l'a cru mort, ce qui lui a sauvé la vie. Il est revenu en France. Il se reconstitue actuellement en France et il a été logé dans une des paroisses parisiennes. Peu après, il y a eu l'attentat dans la cathédrale orthodoxe d'Alexandrie, puis donc ce printemps arabe commençait en Tunisie, comme vous le savez, lorsque un marchand s'est immolé par le feu parce qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il était donc clair que cet homme était épuisé. Les autorités tunisiennes ont traité cela comme un fait divers. C'est cela qui a mis le peuple dans la rue, car le peuple a dit « mais nous n'en pouvons plus, nous aussi, c'est pas du tout un fait divers, c'est un fait de société, notre économie est en panne ». Car vis-à-vis des pouvoirs autoritaires, militaires qui étaient en place de la Tunisie à l'Irak, finalement la classe moyenne pouvait se déployer. La croissance économique faisait que finalement elle était assez satisfaite de son sort. Certes, la démocratie n'était pas exemplaire, mais finalement le commerce marchait, la classe moyenne pouvait développer sa maison, les jeunes faisaient de meilleures études que leurs parents, ce qui est toujours un petit peu dangereux. Mais enfin bref, la classe moyenne était finalement assez satisfaite de son sort. La crise économique l'a stoppée dans cet élan. Elle s'est retournée vers les milieux populaires, contre les milieux dirigeants, et nous savons que c'est cela qui est explosif. Nous sommes donc devant une situation où il y a eu le renversement de pouvoir militaire. Pouvoir militaire, ça a un bon côté, l'ordre règne, ça a un moins bon côté, c'est qu'il n'y a pas de monde de milieu politique. Ce qui fait que lorsqu'on renverse un pouvoir militaire, il n'y a plus personne pour le remplacer. Et donc il a fallu trouver quelques moyens de remplacement, et cela a été le cas pour les milieux islamistes, notamment les frères musulmans, qui représentaient la seule force organisée capable de prendre la place des pouvoirs militaires. Lorsque ces islamistes ont pris le pouvoir, notamment en Tunisie et en Égypte, le peuple musulman en profondeur a compris que ce n'était pas le projet qui leur convenait, que ces islamistes avaient le rêve d'un grand califat de l'Atlantique à l'Inde, considérant que les pays étaient le fruit des décisions occidentales qui avaient dessiné les frontières. Ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement juste. Même pas les Occidentaux qui ont permis à l'Égypte d'exister en tant que nation. Ce mépris du sentiment national fait que ces populations se seront tournées contre eux pour essayer, tant bien que mal, d'avoir des stabilisations qui demeurent, hélas, encore à envisager en Syrie et en Irak. Nous voyons des constitutions qui sont donc élaborées, notamment en Tunisie. La constitution tunisienne est sans doute, l'actuelle constitution en Tunisie est sans doute une constitution inespérée. Pourtant, je ne dirais pas comme notre président de la République, c'est une constitution exemplaire. En effet, cette constitution stipule que les nouvelles générations doivent être éduquées selon la foi musulmane. Voilà. Encore une fois, c'était peut-être la moins mauvaise possible, c'est tout de même pas encore tout à fait un exemple quand on est un peu habité par une vision de laïcité. Dans cette même perspective, d'ailleurs, je suis obligé de constater que nous avons parfois une certaine tiédeur devant une affirmation islamiste de la société, de la Constitution. Les déclarations islamiques des droits de l'homme faites par l'organisation islamique sont tout de même pleines de questions, mais après tout, c'est le rôle de cette organisation d'affirmer des droits islamiques comme cela a été pour la déclaration de Dakar en 1983 ou du Caire en 1991. Je suis tout de même plus en colère de constater qu'en 1980 à l'UNESCO, le 19 septembre, il y a eu une déclaration islamique des droits de l'homme à l'UNESCO, agence des Nations Unies. Si notre Déclaration universelle des droits de l'homme mérite d'être revue parce qu'elle serait peut-être trop occidentale, je n'ose dire chrétienne, d'inspiration, travaillons-la. Mais comment pouvons-nous accepter qu'à l'UNESCO, temple de la science, de l'éducation et de la culture, il y ait une déclaration islamique des droits de l'homme? On aura à ce moment-là une déclaration hindoue des droits de l'homme et vous verrez qu'il y aura bien un jour une déclaration chrétienne, catholique des droits de l'homme, pourquoi pas? Nous voyons donc qu'il y a parfois de notre part une certaine tiédeur. Nous évoquons souvent la question de la persécution. Je suis pas un défenseur systématique de ce vocabulaire. Les chrétiens d'Orient souffrent souvent de discrimination. La discrimination, ce n'est pas la persécution, même si quelque part un excès de discrimination peut s'apparenter à la persécution. La discrimination de nos frères d'Orient est souvent une discrimination d'ordre administratif, d'ordre de voisinage, mais toute minorité est vite accusée d'un conflit de voisinage, d'ordre judiciaire, dans un conflit entre un musulman et un chrétien, souvent le musulman aura la plus belle partie, discrimination professionnelle, discrimination économique. Ces discriminations, évidemment, ne doivent pas durer et ne sont inacceptables. À côté des discriminations, il y a des actes de violence. J'ai évoqué la cathédrale syriaque de Bagdad et la cathédrale copte d'Alexandrie, mais il y a également des kidnappings, des assassinats, mais encore une fois, des actes de violence ponctuels ne sont pas exactement une persécution. Pour qu'il y ait persécution, il faut qu'il y ait un travail systématique. En Égypte, aujourd'hui, 10 millions de chrétiens sont allés à la messe dimanche dernier, ils iront sans doute à la messe dimanche prochain, on n'a pas entendu dire qu'ils étaient mis en prison ou qu'ils étaient systématiquement tirés à la Kalachnikov. Donc réservons le vocabulaire de la persécution lorsque vraiment il y a des cas de persécution. Ce cas s'est notamment présenté lorsque les frères musulmans ont été chassés du pouvoir. Il y a une sorte de vengeance de frères musulmans ou de salafistes. Dans l'été 2013, plus de 100 lieux de référence chrétienne ont été systématiquement incendiés. Là, c'est ce qu'on appelle une persécution. Mais pour dire la vérité jusqu'au bout, un évêque de Haute-Égypte me disait « Si j'ai encore ma cathédrale, c'est parce que des amis musulmans l'ont entourée toute la nuit pour empêcher qu'elle soit incendiée. » Là aussi, ce sont des faits qu'il faut dire également. Et je pourrais raconter également des situations de maisons religieuses en Alexandrie où, de même manière, des amis musulmans ont encadré l'école religieuse ou le couvent pour empêcher que ces maisons religieuses soient saccagées. Mais là, on a eu effectivement un lieu de persécution. Et évidemment, aujourd'hui, devant le Daesh, nous sommes bien devant une persécution. Il y a de toute évidence dans ce groupe quelque chose de nouveau, non pas par la violence. Hélas, la violence, nous la voyons dans bien des réalités. Nous pourrions en parler en Libye, nous pourrions en appeler en Afrique, mais mon champ d'activité s'est limité au Moyen-Orient. Et nous voyons bien qu'il y a là quelque chose de nouveau par la mise en image de la cruauté pour terroriser une région, pour terroriser une population. Nous sommes parfois un peu surpris de voir des armées régulières se sauver devant l'avance du Daesh, mais parce qu'il a terrorisé la population en mettant lui-même en scène et en image sa propre cruauté. Je ne sais pas si vous avez vu les images, elles sont pénibles. Je comprends qu'on ne les montre pas au grand public, mais il faut aussi les regarder. L'assassinat de ces 21 coptes égyptiens sur la plage décapités sont suivis par un discours du décapiteur en chef avec son couteau ensanglanté face à la mer pour désigner l'Europe et pour dire cette décapitation est un signal vis-à-vis de l'Europe qu'il appelle le règne de la croix, ce qui montre sans doute d'ailleurs qu'il ne connaît pas très très bien l'Europe. Voilà, ce sont bien des crimes contre l'humanité, ce sont également des crimes culturels contre l'humanité. Nous voudrions, et si vous pouvez nous y aider, je vous en serai reconnaissant, hisser cette incrimination au rang de crimes culturels contre l'humanité lorsqu'on voit des œuvres d'art systématiquement brisées, mais aussi des documents anciens qui sont vendus pour un commerce clandestin qui d'ailleurs contribue à financer le Daesh. Il s'agit aussi, à mes yeux, d'un génocide, même si cette terminologie fait débat dans le monde juridique. Je rappelle que la définition d'un génocide vise non seulement une extermination pour des raisons ethniques, mais également pour des raisons religieuses. Elle vise une population en totalité ou une partie de la population. Elle suppose une extermination physique, intentionnelle, systématique, programmée. Je pense que nous nous trouvons bien là, devant la réalité d'un génocide vis-à-vis des yézidis, cela va de soi, mais également vis-à-vis des chrétiens. Cette situation des chrétiens au Moyen-Orient, évidemment, est tout à fait dramatique. Nous sommes devant quelque chose de nouveau depuis des siècles qui met en cause la survie des chrétiens et en Syrie et en Irak. Nous sommes devant, en quelque sorte, si nous prenons un peu de recul, devant le troisième réveil de ces chrétiens arabes. Le premier était contre l'Empire ottoman, c'est l'histoire de Laurence d'Arabie autour de la Première Guerre mondiale. C'est un deuxième réveil qui voulait jouer la carte de l'arabité autour de la Seconde Guerre mondiale. Puis un troisième réveil contre les pouvoirs militaires qui, certes, faisaient régner l'ordre, mais étaient tout de même plus dictatoriaux que nous n'en avions l'impression parfois vu d'Europe. Alors, je vois bien que là où elle a été tentée, la démocratie n'a pas apporté que des bienfaits, notamment pour les chrétiens. L'effondrement des structures de l'État impose aux minorités une fragilisation terrible. Du coup, on dit que les chrétiens étaient parfois les alliés de ces pouvoirs militaires. Ce n'est pas aussi vrai que nous le disons. Mais nous voyons bien que ces essais de démocratie donnent une impression négative. Et mes amis chrétiens d'Orient disent « Voyez où ça nous a conduit, votre démocratie ». J'essaie de leur répondre que, en réalité, ce n'est pas la démocratie qui leur a créé des difficultés, c'est une démocratie insuffisante. La démocratie, comme vous le savez infiniment mieux que moi, ne se résume pas simplement à la prise de pouvoir par un groupe majoritaire. La démocratie suppose aussi des droits reconnus à l'opposition, suppose aussi le droit reconnu à chaque citoyen malgré l'appartenance à des groupes minoritaires. C'est aussi l'indépendance du pouvoir judiciaire, c'est aussi bien sûr la liberté d'expression. Ce qui crée un effondrement dans tel ou tel pays, ce n'est pas la démocratie, mais c'est la démocratie insuffisante, même s'il nous semble nécessaire de permettre à ces orientaux d'inventer un système de démocratie qui leur soit approprié. Et donc la laïcité, nous sommes un peu les porteurs de cette idée de laïcité, doit ne pas être trahie, ici même en France, par un laïcisme parfois proche d'un athéisme d'État, de manière à pouvoir être exportée positivement vers ces pays. Je souhaiterais que nous puissions trouver un projet pour ces peuples. Nous sommes dans une impasse en Syrie. La position occidentale, et en particulier française, et là je dois le dire, devient de plus en plus incompréhensible. Le déploiement du Daesh ces derniers jours, en Irak, en Syrie, dans la frontière irako-syrienne, désormais tout à fait entre les mains du Daesh, en Libye, en Afrique, est incompréhensible. Comment se fait-il qu'une colonne de véhicules militaires ait pu prendre la possession de l'admirable ville de Palmyre, alors qu'il n'y a qu'une seule piste dans un désert aussi plat que cette table? Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'efficacité dans cette lutte contre le Daesh? Cela nous inquiète. Comment comprendre que des centaines, que des milliers d'Européens aient pu avoir le désir de les rejoindre? Voilà une question, j'en parlais avec le ministre de l'Intérieur, posée au pouvoir public, posée aux responsables musulmans et aux responsables chrétiens. Qu'avons-nous fait ou que n'avons-nous pas fait pour que ces jeunes Français, ces centaines de jeunes de Français aient envie d'aller se battre là-bas? Et comment allons-nous gérer leur retour chez nous? Je rappelle quand même que le porte-parole du Daesh a invité tous les musulmans de France en novembre à faire des meurtres contre les chrétiens. Nous sommes, je vais très vite là-dessus, ça supposerait d'avoir plus de temps, pour ce qui est de l'islam, devant tout de même une question de déploiement, de développement de l'islam, qui est affronté à la modernité rationaliste, mais aussi à la post-modernité individualiste. Nous sommes devant un manque de structure dans l'islam sunnite, avec qui parler ? Qui est-ce qui fait autorité dans l'islam sunnite? Nous sommes devant une théologie de l'inspiration qui est déficiente, ce qui fait que un jour, la mise en cause de l'authenticité du Coran sera un choc terrible pour l'islam, tant est grande la sacralité qui entoure ce livre, et une absence de théologie de l'histoire qui fait que la fidélité aux sources est confondue avec un retour archaïque aux origines. Je souhaiterais bien volontiers que l'Union pour la Méditerranée puisse exister et fonctionner. Et je pense qu'en voyant tous ces réfugiés qui veulent rejoindre le nord de la Méditerranée, nous sommes obligés de constater l'absence d'efficacité de ce projet, qui était un beau projet et qu'il faudrait vraiment, je crois, réactiver. Le Moyen-Orient est un lieu d'œcuménisme entre les différentes communautés chrétiennes, orthodoxes, catholiques et protestantes. C'est un lieu de dialogue interreligieux, car il y a un vrai dialogue avec les musulmans de bonne volonté qui existent, qui sont nombreux, qui veulent avec les chrétiens que leur pays avance vers plus de modernité. Je crois que nous devons comprendre que si la minorité chrétienne sortait du Moyen-Orient, ce serait un drame pour qui? Ce serait un drame pour eux, oui, bien sûr, c'est leur terre d'origine, leur terre ancestrale, mais peut-être après tout serait-il mieux en Australie, en Suède, en Amérique latine, chez nous. Ce serait un drame pour l'Église, oui, bien sûr, parce que c'est la terre de nos origines, mais l'Église n'a pas vocation à être un gardien de musée, nous ne sommes pas les gardiens d'un tombeau vide. L'Église, en principe, est vivante lorsque deux ou trois sont réunis en son nom. Ce serait un drame pour les pays de départ, car derrière les chrétiens, les autres minorités ne pourraient plus rester et seraient obligées de quitter leur pays. Et donc, chaque État du Moyen-Orient se redirait vers son groupe majoritaire. Certains pensent construire la paix de cette manière-là. Et puisque nous sommes non seulement un siècle après le génocide arménien, mais également un siècle après la Première Guerre mondiale, il y a tout de même une question que notre génération doit se poser. La guerre de 14-18, un épisode tragiquement sanglant, même s'il y a eu des actes d'héroïsme que nous ne devrions pas oublier, c'était la Derdéder. Plus jamais ça, c'est trop horrible. Et pourtant, 20 ans après, et lorsqu'on a un peu d'expérience de la vie, 20 ans c'est très court, nous avons recommencé. Nous avons recommencé parce que nous avons cru construire la paix en mettant les Français avec les Français, les Allemands avec les Allemands, les Polonais avec les Polonais, les Autrichiens avec les Autrichiens, les Italiens avec les Italiens. Ce n'est pas ainsi qu'on construit la paix, ainsi on prépare la guerre suivante quelques années plus tard. Il n'y aura pas de paix sans les minorités au Moyen-Orient, c'est bien plutôt en reconnaissant le droit de chaque citoyen dans une vision humaniste qu'on pourra construire la paix par-delà l'appartenance aux minorités. C'est ce à quoi nous essayons de travailler. Et pour conclure, je voudrais rendre hommage à ceux qui permettent à 200 000 élèves du Moyen-Orient de recevoir un enseignement en français. Je ne dis pas d'apprendre le français, de recevoir un enseignement en français, dans toutes les disciplines générales, grâce au dévouement de religieux et de religieuses qui se dévoue à maintenir cet enseignement en français auprès de ses 200 000 élèves. Je suis un peu blessé de penser que ces religieuses n'ont aucun soutien, ni de l'Agence pour le développement du français à l'étranger, ni de la francophonie. Ces religieuses françaises me disaient « Nous insistons pour le français, bien sûr, nous avons des tas de pressions, y compris économiques, parce que là on pourrait leur faire des chèques pour qu'elles passent à l'anglais. Nous tenons à ce que nos élèves apprennent le français, reçoivent cet enseignement en français, car nous constatons que lorsqu'un élève est de culture française, il est de culture infiniment plus universelle que s'il est seulement anglophone. Je voulais conclure sur cela, que je vous laisse à méditer. »